un organe indépendant. Il y a certaines sortes de gens qui, en raison d'un manque de réflexion personnelle et aussi d'une certaine naïveté, mènent une vie étonnamment artificielle. Le docteur Tokai était de ces gens-là. Ces individus doivent faire un gros effort d'adaptation, chacun à sa façon, pour pouvoir ajuster leur moi tout droit et tout simple à un monde courbe et complexe, dirons-nous. Et dans la plupart des cas, ils ne remarquent même pas à quelles manœuvres compliquées ils sont soumis au quotidien. Ils sont persuadés de vivre d'une manière parfaitement naturelle, en toute sincérité, sans arrière-pensée ni ruse. Et lorsque par hasard ils s'aperçoivent, comme frappés par une illumination soudaine du caractère artificiel ou contre-nature de leurs faits et gestes, ils se retrouvent dans une situation tragique ou quelquefois comique. Bien entendu, très nombreux sont les bienheureux, comment le dire autrement, qui resteront jusqu'à leur mort à l'abri de cette illumination, ou bien qui ne ressentiront rien de spécial, même en ayant été traversés par cette vive clarté. Je voudrais rapporter ici tout ce que j'ai pu apprendre sur le docteur Tokai. La plus grande partie, c'est de la bouche même de l'intéressé que je l'ai entendu. J'y ai cependant ajouté des épisodes relatés par certains de ses proches que j'estime suffisamment fiables. Par ailleurs, j'y ai plus ou moins mêlé un certain nombre d'hypothèses personnelles, lesquelles reposent sur ce que j'ai pu observer de son comportement quotidien. Elles représentent une sorte de ciment qui comble les jours entre les faits rapportés. J'aimerais indiquer par là que ce portrait n'est pas uniquement composé d'éléments objectifs, et que, en tant qu'auteur, je ne prétends en rien, cher lecteur, vous dire que ma description pourrait être utilisée comme preuve devant un tribunal, pas plus que comme base pour une transaction commerciale, sans imaginer cependant de quelle transaction il pourrait être question. Néanmoins, si vous décidez de regarder ce portrait avec une certaine distance et de prendre un peu de recul, je vous en prie, vérifiez auparavant que ne s'ouvre pas un précipice derrière vous, vous devrez bien comprendre que la véracité de chaque détail n'est pas capitale. Et aussi que, de la sorte, le caractère individuel du docteur Tokai en ressort plus vivant, qu'il prend davantage de relief. C'est du moins l'espoir de l'auteur. Parce que, en un mot, comment dire, c'était un homme qui n'offrait guère d'espace aux malentendus. Cela ne signifiait pas pour autant que le personnage était tout d'une pièce, simpliste ou limpide. Sa personnalité, en tout cas certains aspects de celle-ci, était complexe, composite, peu aisée à déchiffrer. Ce qui était tapis dans les ténèbres de son subconscient, de quelle faute originelle il était chargé, bien entendu je l'ignorais. Pourtant, étant donné qu'il agissait invariablement selon le même schéma, oserais-je affirmer qu'il me fut relativement facile de brosser de lui une image dans sa totalité. Cela pourra paraître présomptueux, mais en tant qu'écrivain de métier, ce fut alors mon impression. Tokai avait 52 ans et il ne s'était jamais marié. Il n'avait jamais vécu avec une femme non plus. Il vivait seul dans son bel appartement, ses jours de chambre, situé au 5e étage d'une élégante résidence d'Azabu. On pouvait parler de lui comme d'un irréductible célibataire. Pour tout ce qui était cuisine, lessive, repassage, ménage, il s'en sortait parfaitement. Deux fois par mois, il faisait appel à une entreprise spécialisée en nettoyage. De tempérament, il aimait la propreté, et les travaux ménagers n'étaient pas un souci pour lui. Au besoin, il était capable de concocter de délicieux cocktails et de réaliser différentes recettes, depuis des ragoûts de viande et pommes de terre jusqu'à du bar en papillote, tout comme la plupart des cuisiniers qui ne regardent pas à la dépense dans le choix de leurs produits, ces plats étaient en général très bons. Qu'il n'y ait pas de femme à la maison ne le gênait en rien. Jamais il ne s'ennuyait chez lui en sa seule compagnie, et seul dans son lit, il ne se sentait pas solitaire. Du moins jusqu'à un certain point. Le docteur Tokai était chirurgien plasticien. Il dirigeait la clinique esthétique Tokai, située à Roppongi, qu'il avait héritée de son père. Du fait de sa profession, il avait naturellement bien des occasions de rencontrer des femmes. Dire qu'il était beau serait excessif, mais il présentait plutôt bien. Il ne lui était d'ailleurs jamais venu à l'esprit qu'il aurait pu lui-même subir une intervention. La clinique lui assurait de confortables rentrées d'argent. Il avait reçu une bonne éducation, ses manières étaient raffinées, il était cultivé et savait entretenir une conversation intéressante. Sa chevelure était encore abondante, même si quelques fils blancs commençaient à s'y mêler. Et afin de conserver le plus longtemps possible la silhouette de sa jeunesse et de lutter contre une légère corpulence qui s'installait ici ou là, il s'astreignait de bon cœur à des séances régulières dans une salle de sport. C'est pourquoi, pour parler franchement, et au risque d'irriter les uns ou les autres, ne pas avoir de femme ne le dérangeait pas le moins du monde. Pour une raison inconnue, Tokai, depuis tout jeune, n'avait jamais eu le projet de se marier ou de fonder une famille. Il était étrangement convaincu que la vie conjugale n'était pas faite pour lui. Aussi, d'emblée, s'était-il efforcé d'éviter les femmes en quête d'un mari, si séduisantes qu'elles aient été par ailleurs. Du coup, les femmes avec qui il entretenait des relations étaient soit mariées, soit pourvues d'un petit ami en titre. Tant qu'il s'en tenait à ce principe, aucune de ses partenaires ne songerait à se marier avec lui. Pour le dire plus simplement, Tokai n'était pour elle qu'un agréable numéro 2, un petit ami des jours de pluie, bien pratique, ou encore une passade commode. Mais pour Tokai, en vérité, ce type d'aventure, c'était à la fois sa grande fierté et son plus grand plaisir. Car les relations qui réclamaient des partenaires, un partage de responsabilités, lui donnaient un désagréable sentiment d'instabilité. Le fait que ces femmes aient des relations intimes avec d'autres que lui ne le tourmentait pas particulièrement. Une histoire de chair, rien de plus, estimait Tokai, point de vue médical. Ce que pensaient aussi, en général, les femmes elles-mêmes, point de vue féminin. Tokai jugeait suffisant qu'elle lui prête une attention exclusive quand ils étaient ensemble. Ce qu'elle pensait ou faisait par ailleurs le reste du temps, c'était leur problème. Cela ne le regardait nullement. Fourrer son nez là-dedans aurait été absurde. Un de ses plus grands bonheurs consistait à sortir dîner avec une femme, boire du bon vin en sa compagnie, mener une conversation amusante. Le sexe n'était que le prolongement de ses plaisirs, absolument pas le but ultime. Ce qu'il recherchait avant tout, c'était des rencontres intimes et intellectuelles avec des femmes séduisantes. Ce qui arriverait ensuite, eh bien, on verrait plus tard. C'est pourquoi ses partenaires étaient naturels avec lui. Le temps qu'elle passait en sa compagnie était léger, insouciant, et elle se sentait parfaitement à l'aise. Mon opinion est que beaucoup de femmes de par le monde, surtout les plus charmantes, se lassent des hommes trop avides de sexe. Je trouve parfois regrettable qu'il n'ait pas compté avec combien de femmes il avait noué ce genre de relation au cours de presque 30 années. Mais par nature, Tokai n'était pas un homme que les records intéressaient. Il était avant tout en quête de qualité. Il n'était pas non plus obsédé par l'apparence extérieure. Du moment qu'elle n'avait pas de gros défauts susceptibles d'éveiller son intérêt professionnel, qu'elle n'était pas ennuyeuse au point de le faire bâiller rien qu'en les regardant, il était partant. Après tout, si quelqu'un n'était pas satisfait de son apparence et s'il allongeait une somme d'argent conséquente, presque tout de lui pouvait être modifié. En tant que spécialiste, il connaissait un grand nombre d'exemples étonnants dans ce domaine. Il appréciait surtout les femmes intelligentes, à l'esprit vif, ayant le sens de l'humour. Le laissaient de marbre celles qui manquaient de conversation, étaient incapables d'avoir leur propre opinion, même si elles étaient très belles. Aucune intervention chirurgicale ne pourrait améliorer leur capacité intellectuelle. Un de ses plus grands plaisirs était de bavarder avec une femme d'esprit au cours d'un repas, ou bien, au lit, de lui raconter des anecdotes joyeuses et frivoles tout en la caressant. Ces moments-là étaient pour lui un véritable trésor. Jamais aucune de ses aventures ne lui avait occasionné de réels problèmes. Il détestait les relations complexes et les conflits sentimentaux. Lorsque, pour une raison ou une autre, des nuages sombres et funestes pointaient à l'horizon, il se retirait de façon habile et intelligente, en évitant d'aggraver les choses et de blesser sa partenaire. Il disparaissait avec naturel et célérité, comme une ombre engloutie dans le crépuscule approchant. des techniques qu'en célibataire endurci, il maîtrisait à la perfection. Les ruptures avec ses petits amis du moment se produisaient régulièrement. Quand le temps était venu, les célibataires pourvus d'un amoureux lui annonçaient « C'est vraiment dommage, mais nous ne pourrons plus nous voir. Je vais bientôt me marier. » La décision de se marier était prise bien souvent avant l'échéance de leur 30e ou 40e anniversaire. Un peu comme les calendriers qui se vendent à l'approche de la fin de l'année. Tokai prenait toujours cette annonce avec sang-froid et leur offrait un sourire teinté d'une légère tristesse. « Oui, bien entendu, c'est dommage, mais enfin nous n'y pouvons rien. » L'institution de mariage était finalement quelque chose de sacré, même si lui-même n'éprouvait aucune inclination à y souscrire. On devait la respecter. Il leur achetait un présent de prix pour l'occasion et les félicitait. « Tous mes vœux. J'espère que tu seras heureuse. Une femme intelligente et belle comme toi a droit au bonheur. » Il était parfaitement sincère. Par pure bienveillance, vraisemblablement, toutes ces femmes lui avaient fait passer des moments merveilleux et lui avaient offert une part précieuse de leur vie. Rien que pour cela, il leur était reconnaissant. Que pourrait-il vouloir de plus? Pourtant, environ un tiers de ces femmes qui avaient contracté les liens sacrés du mariage rappelaient Tokai quelques années plus tard. Elle lui proposait gaiement une nouvelle rencontre, s'il était d'accord. Et c'est ainsi qu'entre eux recommençait une relation fort plaisante, qu'on aurait difficilement qualifiée de sainte. Simplement, si lui était toujours un célibataire insouciant, sa partenaire était à présent une femme mariée. La relation n'en était pas moins agréable. Mais ce qu'il faisait au fond, c'était la même chose qu'autrefois, avec néanmoins davantage de raffinement. Les deux autres tiers des femmes ne le contactaient plus. À présent qu'elles avaient acquis le statut d'épouse légitime, sans doute menaient-elles une vie heureuse et gratifiante. Elles étaient devenues des femmes au foyer émérites et avaient sûrement plusieurs enfants. Leur merveilleux mamelon, qu'il avait tendrement caressé, c'était peut-être leur bébé qu'il était aujourd'hui. Cette pensée réjouissait beaucoup Tokai. La plupart de ses amis étaient mariés et avaient des enfants. Tokai avait été heureux de leur rendre visite, mais jamais il n'avait éprouvé de jalousie. Tant qu'ils étaient petits, leur rejeton était mignon. Mais à peine atteignait-il le collège ou le lycée, qu'il se mettait systématiquement à détester les adultes, provoquant par leurs moqueries ou leur désir de revanche des problèmes inextricables, qui mettaient les appareils nerveux et digestifs de leurs parents à rude épreuve. D'un autre côté, les parents avaient l'obsession de faire entrer leur précieuse progéniture dans des écoles de renom. Ils ne cessaient de mettre la pression à leurs enfants au sujet de leurs résultats. Et puis, les discussions houleuses, au cours desquelles les adultes se rejetaient la responsabilité des problèmes, semblaient sans fin. Les enfants se réfugiaient dans un silence obstiné, s'enfermaient dans leur chambre, chattaient inlassablement avec leurs camarades de classe, ou bien s'absorbaient dans un jeu porno des plus suspects. Tokai ne se sentait pas la moindre attirance pour ce genre de sauvageons. « On a beau dire, mais les enfants c'est quelque chose de magnifique », clamaient ses amis d'une même voix. Ses arguments de vente n'avaient aucune chance de lui inspirer confiance. Peut-être, au fond, ses amis souhaitaient-ils que Tokai supporte lui aussi le fardeau dont ils étaient chargés. Il s'était volontiers convaincu que tous les hommes devaient en passer par les mêmes épreuves. Moi-même, je m'étais marié très jeune, je l'étais resté, mais comme il se trouvait que nous n'avions pas eu d'enfants, j'étais en mesure de comprendre le point de vue de Tokai, jusqu'à un certain point, malgré, à mon sens, ses préjugés simplistes et exagérations rhétoriques. Il avait sans doute en grande partie raison. Bien entendu, on ne rencontrait pas que des exemples aussi désastreux. Notre vaste monde abritait également des familles heureuses, au sein desquelles les relations entre parents et enfants étaient harmonieuses du début à la fin. C'était sans doute aussi fréquent qu'un triplé marqué par un joueur au cours d'un match de foot. Mais je ne faisais pas assez confiance pour croire que j'aurais pu appartenir à la coterie de ces rares parents heureux, et je ne pensais pas, mais alors pas du tout, que Tokai était le type d'homme qui aurait pu devenir un tel père. Si l'on voulait, sans craindre les malentendus, exprimer en quelques mots ce qu'était Tokai, on pourrait dire qu'il était un homme aimable. Au moins superficiellement, on ne décelait chez lui aucun facteur qui aurait nui à l'équilibre de sa personnalité. Il n'était pas mauvais perdant, il n'avait pas de complexe d'infériorité, n'avait pas tendance à être jaloux, n'était ni de parti pris ni orgueilleux, ne réagissait pas de façon négative si quelque chose lui déplaisait, n'était pas hypersensible et n'avait pas d'opinion politique intraitable. Dans son entourage, on appréciait son caractère honnête et débonnaire, ses bonnes manières, son attitude gaie et positive. Et la somme de ses qualités assurait son succès auprès des femmes, la moitié de l'humanité environ. Dans sa profession, de la considération et une empathie toute particulière envers la gent féminine étaient des qualités essentielles. Mais chez lui, il ne s'agissait pas de techniques qu'il aurait utilisées par nécessité ou qu'il aurait acquises. C'était une disposition naturelle, innée. Comme d'autres possèdent une belle voix ou de longs doigts. Aussi, sa clinique était-elle florissante, sans oublier, bien entendu, qu'il était un excellent chirurgien. Nul besoin pour lui de faire de la publicité dans les magazines ou ailleurs. Son agenda était toujours complet. Comme nos chers lecteurs ne l'ignorent sans doute pas, ceux que l'on nomme des hommes aimables manquent souvent de profondeur, et beaucoup d'entre eux sont médiocres et ennuyeux. Pas Tokai. J'ai bien souvent passé un moment fort plaisant en sa compagnie, durant le week-end à boire des bières. Tokai était disert, et sa conversation passionnante. Il possédait un sens de l'humour dénué de complications, direct et concret. Il racontait toutes sortes d'anecdotes spirituelles sur les dessous de la chirurgie esthétique, bien sûr sans trahir le secret professionnel, son travail lui apportant un éclairage étonnant sur la nature des femmes. Ces discussions ne dégénéraient cependant jamais en bavardage trivial. C'était toujours avec respect et affection qu'il évoquait ses patientes, et il ne divulguait jamais aucune information en lien avec une personne en particulier. Un gentleman ne parle jamais des femmes avec qui il a couché, ni des impôts qu'il a payés, me confia-t-il avec confiance.
De qui est cette maxime ?
De moi, répondit-il sans changer d'expression,
même si de temps à autre, il me faut bien parler impôts avec mon conseiller fiscal.
Pour Tokai, avoir simultanément deux voire trois petites amies était tout à fait naturel. Ces femmes ayant chacune un mari ou un amoureux en titre, lesquels étaient prioritaires dans leur emploi du temps, il était évident qu'elles n'occupaient qu'une toute petite partie de ses heures. Par conséquent, il n'estimait pas déloyal d'avoir plusieurs maîtresses en même temps, chose qu'il leur cachait bien entendu. Il faisait son possible pour ne pas mentir, mais il ne dévoilait aucune information sans nécessité. Tels étaient ses principes.